Avec Trace et Ensemble d'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le temple protestant de Luchon à l'occasion du culte célébré le 17 août dernier. Nous entendons Rivesti dans une méditation sur les psaumes et le psaume 10 en particulier, précédé par les lectures bibliques au chapitre 29 du premier livre des chroniques par Johann et dans l'évangile de Luc au chapitre 12, l'épisode des serviteurs par Nathan.
Prions ensemble. Seigneur, nous te demandons, ton Saint-Esprit, de nous guider et surtout de m'apprendre ta parole. Je te demande, Seigneur, parce que je ne sais pas parler. Viens avec nous, Seigneur. Parle, nous écoutons. Amen.
Donc la lecture se trouve dans 1 Chronique du chapitre 29 au verset 10 à 13. Prière de David. David loua le Seigneur en présence de toute l'assemblée. Loué sois-tu en tout temps, Seigneur, Dieu de notre ancêtre Jacob, s'écria-t-il. C'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éclat et la majesté. Oui, dans le ciel et sur la terre, tout appartient. Seigneur, car tu es le roi, le souverain maître de toutes les êtres. La richesse et la gloire viennent de toi, qui domine sur toutes choses. Tu possèdes la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever et de fortifier qui tu veux. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te louons et nous te glorifions ton nom merveilleux.
Luc, chapitre 12, versets 42 à 48. Le serviteur fidèle et le serviteur infidèle. Pierre dit alors, le Seigneur répondit, « Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent ? C'est celui à qui son maître confiera de charge de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs leur part de nourriture au moment voulu. » Heureux ce serviteur si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à ce travail. Je vous le déclare, c'est la vérité, le maître lui confiera la charge de tous ses biens, mais si ce serviteur se dit en lui-même « Mon maître tarde à revenir », s'il se met alors à battre les autres serviteurs et les servantes, s'il mange, boit et s'enivre, alors le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il punira le serviteur d'une façon terrible et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui sait ce que veut son maître, mais ne se tient pas prêt et ne fait pas ce que veut son maître, sera puni de nombreux coups. Seigneur, dis-tu cette parole pour nous seulement ou bien pour tout le monde ? Par contre, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et commet des actes pour lesquels il mérite d'être battu, sera puni d'un petit nombre de coups. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié, beaucoup. On demandera encore plus. Amen.
Nous allons lire dans le livre du psaume. Psaume 10, versets 12 à 18. Seigneur, debout. Ô Dieu, interviens. N'oublie pas les pauvres. Pourquoi les méchants se moqueraient-ils de toi en disant que tu les laisses faire? Toi, tu vois la peine et le tourment du pauvre. Tu veilles à prendre en main sa cause. C'est à toi que le faible remet son sort. C'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Brise les pouvoirs du méchant. Demande-lui compte du mal qu'il a fait et qu'il ne reste aucune trace de lui. Le Seigneur est roi. pour toujours. Les barbares disparaîtront du pays. Seigneur, tu attends les jouets des humbles. Tu leur rends courage. Tu écoutes avec attention pour faire droit à l'orphelin, à l'opprimé. Ainsi, pour sur terre, ne pourra plus être un tyran. Amen. On a lu tout à l'heure dans les chroniques, il a parlé que notre Seigneur Dieu, il est roi des rois. Tout ce qui existe lui appartient. Et il a précisé aussi que nous sommes ses fidèles. Dieu nous aime. Il est présent avec nous. Quand j'étais au collège, j'avais une petite livre, psaume, que j'ouvre à chaque fois et je contemple la bonté de notre Seigneur. Luther présentait les psaumes comme une petite Bible à l'intérieur de la grande, véritable, en chérubin ou manuel de vie pour les croyants. De tous les livres de l'Ancien Testament, celui des psaumes est le plus aimé. Les premiers chrétiens en font un usage en surabondant, avec 126 citations littérales dans le tous les Nouveaux Testaments. Si on tient compte des allusions et réminiscences, les chiffres dépassent les 400. Jésus lui-même, selon l'Évangile, en a fait. Il les a chantés dans les Marc 14 et 16. Il s'en est approprié les paroles. Il les a méditées assidûment. Les ignotes français au XIVe siècle ont pratiqué également les cultes par les psaumes, avec l'élaboration des psautiers Marogout de Mel, qui tient encore aujourd'hui une place dans notre culte. Donc beaucoup dans les cultes évangéliques et réformés, dans les langues françaises, utilisent les psaumes. Tout au long de son histoire, le peuple d'Israël s'est adressé à Dieu pour lui dire sa foi et sa reconnaissance, mais aussi ses doutes et ses révoltes. Les psaumes viennent du grec psaume, psalmos, lui-même dérivé d'un verbe qui signifie à l'origine chanter en s'accompagnant d'un instrument en corde. Les psaumes est vraiment un poème spirituel chanté. Dans la liturgie du Second Temple, l'orchestre lévitique disposait d'instruments divers. La tradition rabbinique a choisi d'appeler les livres Tehillim à partir de l'hébreu biblique Tehillot. Notre texte aujourd'hui, il fait partie de prières de plainte. Cela manifeste d'une présence de la souffrance et du mal du monde. Pourquoi? On va poser des questions. Est-ce que Dieu est absent? Le psaume, il a dit ici, debout, Seigneur, debout. Oh, Dieu intervient. Dans son ensemble, les psaumes 10 est une prière qui dénonce l'injustice, la souffrance profonde vécue, la tristesse, l'oppression. Mais le tout étant remis entre les mains de Dieu. Lève-toi, Éternel, Est-ce qu'il dort ou dans un sommeil profond? Moi, je réponds directement et fermement non. Dans les psaumes 121:4, a dit non, il ne ferme pas les yeux, il ne dort pas, le gardien d'Israël. Il voit tout ce qui nous arrive. Personne ne lui échappe. Lève-toi, Éternel, signifie aussi mets-toi debout, Seigneur, interviens pour la délivrance. Tranche les mal, prends tes responsabilités. En fait, c'est comme un ordre donné. Quand on a vraiment mal, ça m'arrive quelquefois, même si je mets en genoux pour prier des choses qui me fait vraiment, que me rend, c'est vraiment fardeau pour moi, mais je m'écris aussi. C'est comme je donne des ordres. Seigneur, agis-toi. Aide-moi. Comment je fais? En fait, une prière, c'est un appel à Dieu pour qu'il intervienne. Et sa présence nous protège, nous donne la paix. Dans la Bible, plus de 70 passages qui parlent de la souffrance. Il y a souffrance physique causée par la maladie, par exemple. Il y a aussi souffrance morale due à l'angoisse. Et ces souffrances peuvent ébranler notre foi. Ça nous affaiblit. C'est pour cela qu'on a dit, quelquefois, tellement qu'on souffre, on demande si Dieu existe. Il y a aussi des personnes qui ont été accusées injustement. Peut-être une dispute entre frères ou sœurs, ou dans notre travail, dans notre vie quotidienne. L'essentiel, ce qui est important, il faut que, en connexion avec lui, essayons, comme tous les jeunes actuels, sans téléphone, ce n'est plus une vie. Fais la même chose avec Dieu. Avant que le réveil sonne, cherche à connecter Dieu. Parce qu'avec Dieu, il nous donne des forces, il nous protège dans notre vie. Et comment connecter Dieu? Il n'y a pas 36 solutions. Une prière. Et la prière, il n'y a pas mauvaise ou bonne prière. Mais quand on prie, vient de notre cœur, Dieu nous attend. Il n'y a pas une prière plus longue, plus courte. Donc, une prière est une arme que Jésus nous donne pour nous défendre. La parole de Dieu, là c'est une batterie. Si on ne charge pas les batteries de téléphone, il est faible. Et c'est pareil. Nous aussi, on ne lit pas la Bible. Est-elle vraiment gravée dans notre cœur? Je vous incite à lire la Bible. Parce que la parole est vivante, puissante. Pas les livres, mais quand on les lit, cette parole est puissante. C'est une arme de protection. Amen.